Il est tout pile 22h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal. Isabelle Millet.
Je suis formidablement optimiste en vous sachant au travail dans les prochains jours avec le gouvernement. Alors vive les maires de France!
Un discours de reconquête pour Emmanuel Macron à 4 mois des municipales. « J'ai beaucoup appris à vos côtés », a-t-il dit aux maires réunis en congrès. Une confirmation ce soir, le surpoids est très certainement à l'origine de l'effondrement du pont de Mirepoix hier matin.
Nous arrivons à un total de plus de 50 tonnes qui ont emprunté ce pont, dont je rappelle que sa capacité usuel était limité à 19 tonnes.
Les précisions du procureur sur ce drame qui a fait 2 victimes. À la une également, une religieuse, persona non grata, dans une maison de retraite de Vesoul.
Elle était acceptée à condition qu'elle retire son voile, son habit de sœur. Ça m'a vraiment chagrinée. J'ai dit, mais où va-t-on ?
L'ouverture aujourd'hui à Paris du procès du premier attentat djihadiste commis en prison, c'était en 2016. Et puis le tennis et les débuts laborieux des Bleus qui s'imposent de justesse contre le Japon. Beaucoup de brume et de brouillard demain matin, soyez vigilants si vous devez prendre le volant. Des nuages qui resteront assez tenaces sur les Hauts-de-France et sur le Grand Est. Un temps toujours instable sur le Sud-Est. Ne manquez pas surtout les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur de la communication interne d'EDF, Pierre Viriot. EDF, deuxième partenaire national des JO de Paris.
Europe 1.
Emmanuel Macron à la reconquête des maires à 4 mois des élections municipales, opération réconciliation. Un discours de près d'une heure et demie devant les élus rassemblés porte de Versailles pour leur congrès annuel. Vous y étiez, Jean-Rémy Baudeau, discours qui était très important pour le président.
Oui, c'était un long discours pendant lequel le président a expliqué qu'il avait besoin des maires, qu'il n'avait pas été lui-même élu local, mais qu'il apprenait à chaque déplacement. « Je me sens à votre contact, maire de la commune France », a dit le chef de l'État. Voilà pour les courbettes, mais sur le fond, Emmanuel Macron a surtout justifié sa décision, ses décisions, notamment celle de supprimer la taxe d'habitation. Il a longuement demandé à être jugé sur les actes, sur le déploiement du très haut débit, l'ouverture des maisons France Service qui débutent actuellement, ou encore la présence policière dans les quartiers. Et sur un sujet qui agite actuellement l'actualité, à quelques mois des municipales, le président s'est prononcé contre l'interdiction des listes communautaires. Pour lui, la proposition de loi du sénateur Bruno Retailleau ne serait tout simplement pas efficace.
Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté. Ce qui compte, c'est de faire tomber les masques. Et ce combat, je peux compter sur vous pour le mener.
Le président Macron qui promet de nouvelles mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines. Mais à la sortie, les maires que j'ai pu rencontrer n'ont pas montré un enthousiasme démesuré. La salle était globalement polie, mais tiède.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, vous le disiez, le président n'a pas déchaîné les passions avec ce discours, assistance polie mais pas vraiment emballée, à l'image de ces deux élus interrogés juste après par Hélène Terzian. L'un est sans étiquette, l'autre dit vers droite.
Alors convaincu, non, c'est pas tout à fait le terme. Mais ceci dit, dans notre grande diversité, là, tous les maires de France, on a au moins un point commun, c'est qu'on ne croit plus au Père Noël, ni les uns ni les autres. On attendait un discours de repositionnement d'un État décentralisé dans lequel les collectivités aient leur place, y compris les communes rurales d'ailleurs. On doit avoir notre place aussi dans la République et c'était ce genre de discours qu'on attendait.
Je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé l'année dernière, les gilets jaunes, le grand débat, il a analysé la situation en voyant que les maires pouvaient être pour lui un recours sur le territoire pour arrêter ces fractures territoriales et recoudre les territoires qui se sentaient un peu éloignés de la République.
Deux maires qui ont écouté le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. Ils étaient au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Ce soir, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité l'ensemble du projet de budget 2020 qui comprend notamment la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu ou encore la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Le Parlement a également adopté définitivement le vaste projet de loi d'orientation des mobilités qui entend améliorer les déplacements au quotidien des Français tout en intégrant l'enjeu environnemental. En revanche, sans surprise, députés et sénateurs ont échoué à se mettre d'accord sur une version commune du projet de budget de la Sécurité sociale, qui va donc faire l'objet d'une nouvelle lecture à l'Assemblée à partir de lundi. Les sénateurs avaient mis brutalement fin à l'examen du texte la semaine dernière en attendant de connaître les mesures d'urgence pour l'hôpital que le gouvernement doit justement dévoiler demain. Une longue enquête commence au lendemain de l'effondrement du pont de Mirepoix en Haute-Garonne, un accident qui a fait 2 victimes, une collégienne de 15 ans et le chauffeur d'un poids lourd. poids lourd qui pourrait bien être à l'origine du drame, en tout cas d'après les premiers éléments. Il pesait plus de 50 tonnes, alors que la capacité maximale du pont était de 19 tonnes. Théo Manval, vous êtes sur place pour Europe 1, où les secours s'activent toujours pour tenter d'extraire les véhicules de la rivière.
Oui, la Clio blanche a été sortie de l'eau un petit peu après 18h tout à l'heure. Une grue, une immense grue, était à l'œuvre depuis le milieu de l'après-midi avec les plongeurs de la gendarmerie qui ont arrimé des câbles pour la sortir de l'eau. Pour le camion, en revanche, ça devrait prendre encore plusieurs jours. C'est un défi insoluble pour l'instant, sortir de l'eau un convoi en plusieurs parties de 50 tonnes au total. Sauf qu'il faudrait aller vite, demande le maire de Mirepoix, Éric Auget, car une légère fuite de fioul a été détectée dans la rivière.
Il a été relevé une toute petite irisation, certainement lié au carburant des véhicules. Il faut que ça aille relativement vite parce qu'il y a les stations de pompage d'eau potable à Villemur et voilà, il faut que ça soit fait rapidement.
Station de pompage quelques kilomètres plus bas. Concernant l'enquête, le procureur de Toulouse a livré les premiers éléments. Il confirme donc que le convoi sur le pont faisait plus de 50 tonnes. Ce surpoids est la cause apparente de l'accident, dit le procureur Alzéari, qui précise aussi que le conducteur connaissait très bien les lieux. Il passait par là régulièrement avec des véhicules plus légers. Il semble s'être engagé par habitude sur le pont, malgré les panneaux de signalisation, malgré les coups de klaxon et appels de phare de ses employés qui étaient dans d'autres véhicules derrière lui, juste avant la chute.
Théo Manval à Mirepoix sur Tarn en Haute-Garonne pour Europe 1. Ce drame que l'on découvre aujourd'hui, mais qui s'est déroulé samedi dernier, le corps d'une femme enceinte a été retrouvé sans vie dans une forêt de l'Aisne, victime d'une attaque de chien. Cette femme de 29 ans a succombé à une hémorragie consécutive à plusieurs morsures. Elle était elle-même partie promener son chien, alors qu'au même moment, dans ce secteur, se tenait une chasse à cours. Le manifestant sérieusement blessé à l'œil samedi dernier à Paris, place d'Italie, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, va porter plainte. Il affirme qu'il était en train de discuter tranquillement lorsqu'il a reçu un projectile en plein visage.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et on va prendre tout de suite la direction de Vesoul en Haute-Saône où une religieuse s'est vue refuser une place en maison de retraite à cause de son voile. Arthur Henbachet, vous êtes sur place pour Europe 1. La tenue de cette sœur a été considérée comme non conforme à la laïcité.
Absolument, la laïcité vue par les fonctionnaires municipaux vésuliens, ça donne sœur Marie-Dominique, d'accord, mais pas sa tenue de Clarisse. Une robe marron, un voile noir, un liseré blanc sur le front et, ajoute son amie de la paroisse Geneviève, un joli sourire.
Elle était acceptée là, à condition qu'elle retire son voile, son habit de sœur. Chose qu'elle n'a pas fait depuis ses vœux.
Depuis ses vœux, c'est-à-dire quand elle était jeune fille.
Eh bien, bien sûr.
Ça a été quand même quelque chose de dur à encaisser. Parce qu'elle était vraiment loin de se douter qu'il lui arriverait une chose comme ça. Hein. Oh non, ça m'a vraiment chagrinée. J'ai dit, mais où va-t-on? On ne respecte plus rien. Je ne comprends pas.
Alors Marie-Dominique vit pour l'instant dans un studio au centre de Vesoul. À la résidence qu'il a refusée cet après-midi, on m'a expliqué ceci hors micro. Qu'elle porte une petite croix discrète. Ok, mais toute la tenue de religieuse, non, c'est, je cite, une décision concertée avec la mairie. Voilà, ça c'était avant, tout à l'heure, le rétropédalage du maire. Qui fait pénitence, qui admet en tout cas que la neutralité religieuse, c'est pour les agents, pas les usagers des services publics. Et il s'engage, dit-il personnellement, à trouver une place, si elle en veut toujours une, à sœur Marie-Dominique.
Et voilà, Arthur Henbachet à Vesoul pour Europe 1. L'ouverture à Paris aujourd'hui du procès de Bilal Taghi, jugé pour avoir tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Ogny dans le Val-d'Oise à l'aide d'un couteau artisanal. C'était en septembre 2016. Il s'agissait alors du premier attentat djihadiste commis en prison, attaque préméditée qu'il a toujours revendiquée juste ici. Pourtant, à l'audience aujourd'hui, Claude Triomphe, son attitude semble avoir bien changé.
Effectivement, derrière son box vitré de la cour d'assises, Bilal Taghi fait de son mieux pour répondre aux questions. À mi-chemin entre la confusion, les larmes et la colère, il admet pour la première fois que son geste est impardonnable. Des mots à la fois espérés par les victimes, mais elle n'ose pas encore vraiment y croire, comme l'explique Maître Marion Ménage.
Je ne sais pas si ça pose question, si on doit y croire, disons qu'il est quand même très opportuniste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans une cour d'assises et une fois qu'on encourt perpétuité, ça peut tout d'un coup donner envie de pleurnicher un petit peu.
Cette suspicion, elle vient du fait que Bilal Taghi avait déjà trompé son monde lorsqu'il était incarcéré avant l'agression. Il était l'un des volontaires de ces unités dédiées aux islamistes radicaux. Mais comme il le dit aujourd'hui, c'était de l'expérimentation. On avait l'impression, dit-il, d'être des rats de laboratoire. On faisait du yoga, de la relaxation, que des gens qui pensent pareil rassemblés tous ensemble. Ça ne donnait pas envie de changer. Mais depuis, affirme l'accusé, il a réellement évolué grâce à un travail d'introspection depuis 2 ans.
Chloé Triomphe qui suit ce procès pour Europe 1. Aux États-Unis, les deux gardiens de prison chargés de surveiller le financier Jeffrey Epstein dans sa cellule la nuit de sa mort ont été inculpés aujourd'hui, accusés d'avoir falsifié des documents certifiant qu'ils avaient effectué leur ronde, alors que ce n'était pas le cas. Le décès le 10 août dans une prison fédérale new-yorkaise de cette figure de la jet set avait mis fin aux poursuites le visant pour avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures. Disparition qui a privé les victimes présumées d'un procès qui s'annonçait retentissant. Un face-à-face très attendu en ce moment en Grande-Bretagne entre le Premier ministre Boris Johnson et le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn. Débat télévisé au cours duquel chacun espère récolter quelques points supplémentaires en vue des élections du 12 décembre dominées par le Brexit. La Suède abandonne les poursuites pour viol contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks qui était accusé par une femme de l'avoir agressé en 2010. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour une condamnation, a déclaré la procureure. Amnesty International estime que plus de 100 manifestants pourraient avoir été tués dans le mouvement de protestation déclenché en fin de semaine dernière en Iran contre une hausse du prix de l'essence. L'organisation dénonce un recours à la force létale contre des rassemblements pacifiques. À Hong Kong, des dizaines de manifestants sont toujours retranchés sur un campus. Ils refusent de se rendre malgré les menaces d'intervention de plus en plus explicites de Pékin. Ils ont jusqu'ici accueilli les tentatives de les déloger par des jets de cocktails Molotov et de briques. La police a averti qu'elle ferait usage de balles réelles si elle était attaquée avec des armes létales. L'ONU réclame une solution pacifique. En tennis, la France gagne son premier match face au Japon. Elle remporte son premier point dans ce qu'on appelait autrefois la Coupe Davis. Corinne Boulot, vous suivez ça pour Europe 1 à Madrid. Une première victoire donc, mais que ce fut laborieux.
Oui, au bout de 6h30 en 3 matchs, une victoire 2-1 face au Japon à l'issue d'une journée qui avait commencé dans un silence de cathédrale pour l'arrivée des deux équipes devant un public clairsemé, des hymnes japonais puis français qui sonnaient creux devant moins de 500 personnes sur le court numéro 2 qui peut en contenir 3400. De quoi surprendre et attrister ce supporter français Marco trouvé dans les tribunes.
On pensait que c'était très confidentiel, qu'on s'était trompé de lieu et de ville. Et on se posait même la question si c'était vraiment la Coupe Davis ou un match d'exhibition. Tout est beau, la salle est belle. Mais après, ce qui manque, c'est du monde, de la passion, de la ferveur. Ce qui faisait la Coupe Davis, quoi. C'est vraiment triste.
Alors même si Joe Wilfried Tsonga avait bien lancé l'équipe de France, apportant en moins d'une heure un premier point dans le duel des numéros 2, dans une ambiance d'interclub, Gaël Monfils s'est montré ensuite transparent dans le duel des numéros 1 pour sombrer en 2-7. Lui, le numéro 10 mondial, face au 69e, le japonais Nishioka, promu numéro 1 en l'absence de Nishikori. Et ce France-Japon, c'est terminé par le double, un double victorieux avec ce deuxième point apporté par Pierre Hugerbert associé à Nicolas Mahut.
Merci Corinne Boulot qui suit pour Europe 1 cette compétition à Madrid et le prochain adversaire pour les Bleus, ce sera la Serbie de Djokovic jeudi. Le dernier hommage à Raymond Poulidor ce matin dans son village de Saint-Léonard de Nobla en présence de plusieurs anciens coureurs, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Lucien Aymar. Un nouvel hommage au champion disparu à 83 ans sera rendu cet été à l'occasion du passage du Tour de France. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
C'est bientôt l'hiver et en hiver comme en été, les pneus 4 saisons Hankook vous assurent une tenue de route parfaite. Hankook vous présente la météo.
Anissa Haddadi, le département des Landes reste en vigilance orange, toujours pour risque de crue de la rivière Adour. Pour demain en tout cas, la journée débutera sous un ciel très nuageux.
Oui Isabelle, sur une grande partie du pays demain matin, le ciel sera gris avec des nuages bas, des brumes, des brouillards. Attention si vous devez prendre la route. Sur les Hauts-de-France et le Grand Est, ces nuages resteront assez tenaces tout au long de la journée. Et puis au fil des heures, sur le littoral aquitain, le centre, le Nivernais et le Massif central, après la dissipation de ces brumes, le soleil fera de belles apparitions dans l'après-midi. Sur le Sud-Est, les frontières italiennes et la Corse, là le temps est toujours instable avec sur l'île de Beauté des pluies, des coups de tonnerre et même des averses de neige. En Bretagne, Manche et Normandie, le vent souffle, c'est le vent du sud. Il va donc faire remonter les températures. On aura l'occasion d'en reparler demain. Et puis sur le Languedoc-Roussillon, là aussi, c'est le vent d'autant qui se lève. Il pourra souffler en rafale jusqu'à 70 km/h. Les températures toujours fraîches le matin, moins 3 à 10 degrés de Nevers à Bastia, 2 degrés pour Paris seulement. Dans l'après-midi, 4 à 17. Nous aurons 4 degrés à Belfort, 6 à Paris et 9 à Bordeaux.
La météo signée, Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir le directeur de la communication interne d'EDF. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16. Merci d'écouter Europe 1. On va s'intéresser comme tous les soirs maintenant à la bourse avec vous, Didier Hamaud, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et des nouvelles de Wall Street qui marquent une pause, bien que le titre Apple, lui, reste au sommet. Hein.
Oui, ça recule un petit peu sur le Dow Jones. -0,37%, 27 933 points, mais le Nasdaq gagne encore 0,24%, 8 570 points. Les valeurs de technologie qui se tiennent bien, effectivement, Apple reste au plus haut après de très bonnes ventes en Chine en particulier. C'est la bonne surprise sur les deux derniers mois. 266,40 $ Apple donc au plus haut. Aux valeurs de technologie, on résiste sur Microsoft plus 0,1%, IBM plus 0,2%, Facebook plus 1%. Tesla monte même de 2,7%, $359,50. En fait, ce qui plombe le Dow Jones, ce sont les comptes décevants des distributeurs. La distribution en berne, Home Depot perd 5,5% et Kohl's recule carrément de 20%. Le pétrole redescend d'un cran aussi de 2% sur les $60 le baril. Exxon, du coup, perd 1%, $67,80 sur les devises. L'euro campe au-dessus des indices, toujours à 1,1080, faut s'oublier vert.
Et la bourse de Paris, elle a terminé en légère baisse dans le calme.
Petite baisse, -0,35%, il ne s'est pas passé grand-chose. Encore une fois, c'était très calme, effectivement, au-dessus des 5900 points. 5909 points. Les valeurs industrielles ont de nouveau reculé. Ramet, -4%. Chargeur, -3%. Les valeurs pétrolières, derrière le baril, -2,5% pour Technip. On a aussi Vallourec, -2%. Suez et Veolia reculent de 2% aussi. Et puis le secteur satellitaire reste secoué par l'attribution des nouvelles fréquences pour les opérateurs télécoms aux États-Unis. Ça baisse beaucoup sur SES Global, -23%, et sur Eutelsat, -2,5%.
Et puis l'exception du jour, c'est Valeo qui s'est distingué à la hausse.
Plus de 3% de hausse, oui, ça monte. Bien, l'équipementier à 35,93 €. UBS, le broker, vient de relever son objectif de cours sur Valeo de 35 à 43 € après des chiffres trimestriels encourageants marqués par une accélération de la croissance de l'équipementier automobile. Donc Valeo en hausse de plus de 3% ce soir. À noter aussi un petit mot sur la FDJ, sur la Française des Jeux, qui confirme un accueil.
Privatisation,
oui. Oui, alors on est au bout, là. C'était
elle entre
ce
en bourse jeudi, c'est ça. Oui.
Exactement. Demain, on va voir le prix. Bercy va annoncer le prix. Ce sera le haut de la fourchette. Il y a une forte demande, aussi bien des particuliers que des investisseurs institutionnels. Donc, ça va être autour des 20 €. Avec les premières cotations, effectivement, ce sera pour jeudi en Bourse de Paris.
Plus d'1 milliard d'euros d'actions ont été souscrits par les particuliers, dit le ministre de l'Économie.
Ça marche fort. Ouais. Oui, non, ça confirme le succès de l'opération. Sur les autres places financières, le DAX gagne 0,1%. Ça, c'est à Francfort. Bruxelles, -0,2. Petite baisse à Milan, -0,5. Madrid est stable. Et on rappelle le CAC 40 en repli de 0,35%, 5 909 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de boursier.com. Et à 22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur de la communication interne d'EDF.
Pierre Viriot, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de la communication interne d'EDF, en charge également de l'image et de la marque. Et c'est à ce titre que l'on vous invite ce soir, puisque depuis ce matin, EDF est le deuxième sponsor national des Jeux Olympiques de Paris, après le groupe bancaire BPCE. Pourquoi tout simplement EDF s'intéresse aux Jeux Olympiques ?
Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est très fiers, évidemment, de s'engager dans cette aventure auprès de Paris 2024. Nous, ça nous semblait évident parce que EDF est un acteur du sport depuis près de 30 ans maintenant et que les valeurs qui sont celles véhiculées par les Jeux résonnent avec les valeurs de l'entreprise, avec cette idée de performance, de respect, de diversité, d'inclusion, de travail en équipe. Donc c'est assez naturellement qu'on a souhaité s'engager dans cette aventure.
Ça coûte combien de partager ces valeurs ?
Alors les chiffres ne sont pas communiqués, hein, ni par Paris 2024, ni par EDF.
Alors, des
Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'échelle des finances d'EDF, ça n'est pas véritablement un sujet.
On parle de 100 millions d'euros sur 5 ans, c'est à peu près cette idée ?
Je ne commenterai pas les chiffres.
Mais c'est totalement fou ou pas ?
C'est totalement vrai, totalement faux.
C'est totalement vrai, totalement faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous coûte peut-être un poil moins cher que les autres parce que vous allez fournir également l'électricité et le gaz pour les JO
de
2024.
Alors c'était important pour nous de s'inscrire dans le projet de Paris 2024. Paris 2024 a comme objectif de faire les Jeux finalement les plus verts de l'histoire des Jeux modernes, avec une ambition de neutralité carbone pour l'organisation de l'ensemble des événements. Et qui mieux qu'EDF, du coup, pour accompagner effectivement ce mouvement, hein, en tant que fournisseur avec une électricité qui émet très peu de CO2, hein, puisque 90% de notre électricité
est l'un de vos engagements,
sans CO2.
C'est uniquement du renouvelable.
Tout à fait.
Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de nucléaire.
Le souhait de Paris 2024, c'est d'être alimenté en électricité renouvelable. Donc
et ça, vous êtes capable de le faire.
Tout à fait. Nous fournirons l'ensemble des sites olympiques et paralympiques sur la durée de l'événement en énergie d'origine renouvelable.
Total était aussi intéressé pour être partenaire de ces JO 2024, mais la mairie de Paris leur a dit « Non, vous êtes des grands méchants, vous polluez trop, on n'a pas envie de vous avoir ». Vous, on vous a appelé directement pour vous dire « Venez donc
». Nous sommes en discussion avec les équipes de Paris 2024 depuis l'origine. Nous pensions que nous avions tous les atouts à faire valoir pour un partenariat qui profite à la fois aux Jeux et à l'entreprise.
Comment ça s'explique alors que du coup, qu'est-ce qu'il faille tant de temps pour négocier un tel partenariat ? C'est si compliqué que ça ?
C'est des discussions.
Ça veut dire que ça fait des mois que vous êtes en discussion.
Oui, ça fait plusieurs mois qu'on discute, mais comme d'autres partenaires potentiels, hein, puisqu'il y a à date un seul partenaire qui a été annoncé.
Donc le groupe bancaire PPCE.
Voilà, avant que nous fassions notre annonce ce matin. Mais c'est normal, je pense qu'il faut réfléchir. C'est un engagement lourd. Ce n'est pas qu'un engagement financier. Je pense que le sujet, c'est de savoir aussi comment on participe à cet événement, en faire véritablement une fête nationale, comment on embarque l'ensemble des salariés du groupe EDF. Donc le temps de réfléchir à tout ça, il nous a fallu effectivement quelques mois.
Parce que quand on a une entreprise aussi connue qu'EDF, qu'est-ce que véritablement on peut imaginer retirer d'un tel investissement?
On est là précisément pour faire la démonstration qu'on peut organiser un événement planétaire et avec un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui soit le plus faible possible. On a des savoir-faire, on va travailler avec Paris 2024 sur la conception de solutions énergétiques innovantes. On va effectivement les fournir en énergie renouvelable. Et donc, on a la démonstration à faire qu'on peut à la fois construire un grand événement et avoir un impact sur le climat qui soit le plus faible possible.
EDF est une entreprise où l'État est très, très largement majoritaire. Vous y êtes allé tout seul. On ne vous a pas demandé d'y aller. Il n'y a pas eu un petit coup de fil de vos autorités de Bercy pour dire « Tiens, ce serait peut-être une bonne idée ».
Aucunement. Non. EDF décide seul de sa stratégie en matière de partenariat. Encore une fois, c'est un projet qui correspond à la fois à nos valeurs et à nos savoir-faire. EDF, et les gens l'ignorent parfois, hein, effectivement, une entreprise avec une production qui émet très peu de CO2 et nous sommes le premier producteur d'électricité renouvelable en Europe.
Et ça vous permettra également de valoriser ce que vous faites dans le gaz, puisque c'est vrai qu'en France, on a tous l'idée de se dire, allez, EDF, c'est de l'électricité, l'ex-GDF, maintenant Engie, c'est du gaz. Là, c'est aussi un moyen de leur couper l'herbe sous le pied, de dire, hey, c'est nous le fournisseur.
Alors, nous sommes effectivement le premier fournisseur alternatif de gaz. Mais on ne connaît pas encore à date les besoins de Paris 2024 en termes d'énergie. La demande aujourd'hui est faite autour d'une fourniture d'électricité d'origine renouvelable, mais nous serons effectivement fournisseurs officiels d'électricité et de gaz.
Le partenariat, je crois, a commencé véritablement ce matin.
Ah, on peut dire qu'il a commencé ce matin.
Là, concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? C'est-à-dire que toutes vos prochaines communications, par exemple, on verra EDF partenaire des JO Paris 2024 ?
On a encore 5 ans devant nous, mais on va progressivement installer le dispositif, sans doute afficher le logo sur les factures. Il y a un certain nombre de choses monter en puissance en termes de communication. Je pense que l'organisation des Jeux à Tokyo en 2020 va être l'occasion d'une première prise de parole. Et puis progressivement, faire monter en puissance cet événement qui, encore une fois, sera une grande fête nationale.
Enfin, toute dernière question, Airbnb, lui aussi, vient de s'associer, mais cette fois au Comité international olympique pour un gigantesque partenariat. Lui aussi a été très critiqué par la mairie de Paris qui ne voit pas ça d'un bon œil. Ça vous va, vous, d'être copain avec Airbnb pour les JO à venir ?
Il ne m'appartient pas de juger des partenariats. Comme vous le savez, il y a des partenariats qui sont faits à différents niveaux. Là, il s'agit d'un partenaire Monde, qui est un partenaire du CIO. Nous on discute avec Paris de 2024.
Ça vous va.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Virio, directeur de la communication interne d'EDF, en charge de la marque et de l'image, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci Emmanuel.
Merci à vous Emmanuel Dutheil. Et effectivement, on vous dit à demain.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant sur Europe 1, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient sur le discours d'Emmanuel Macron devant les maires de France cet après-midi. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Il en a fait des tonnes, écrit la journaliste, mais les enjeux valent bien quelques flatteries, même si les maires ne sont point d'une nature à s'étourdir. Plus question de court-circuiter. Ces élus qui l'ont fait redescendre sur terre tout en amortissant sa chute. Le président, désireux de s'enraciner, confie ainsi être devenu un autre homme à leur contact, mais pas au point non plus de leur accorder une totale liberté. Prestement, il a renvoyé les affaires courantes à son Premier ministre. À lui les applaudissements, à Philippe les sifflets, chacun son tour. Emmanuel Macron a mis le paquet sur le régalien et l'engagement écologique, là où il se sait désormais attendu. Retraité et en bonne santé, c'est pas gagné, titre Libération. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, affirme Emmanuel Macron. Sauf qu'une étude démontre que si les Français vivent certes plus vieux, ils ne sont pas pour autant en meilleure forme. Des voyageurs, les bras croisés et l'air résigné sur un quai de métro bondé, à la une du journal La Croix demain qui titre sobrement « Face à la grève ». Par crainte des blocages annoncés le 5 décembre, les Français commencent à s'organiser alors que de fortes perturbations, vous le savez, sont attendues à la SNCF et à la RATP notamment. Le Figaro a lui choisi de titrer sur ces agitateurs qui mettent les universités sous tension. Radicalité, décolonialisme, lutte contre la précarité, l'ultra-gauche étudiante s'échauffe et espère faire monter la pression avant la grande manifestation sociale du 5 décembre. Marine Le Pen, l'irrésistible ascension, s'interroge l'opinion. Remise de son naufrage de 2017, portée par le vent populiste, la présidente du Rassemblement national est en pleine dynamique. À tel point que certains jugent sa victoire possible face à Emmanuel Macron en 2022. Un titre illustré par un dessin de CAC qui montre Marine Le Pen sur la tombe de Raymond Poulidor et qui l'interroge. Avec le recul, Raymond, est-ce que vous feriez différemment ? Et puis climat, la riposte des compagnies aériennes, titre le journal Les Échos. Pressés par leurs clients et les États, les compagnies veulent agir plus et plus vite pour réduire leurs émissions. L'avion zéro émission n'est pas pour demain, mais d'autres pistes anti-pollution existent. Enfin, Trump veut rayer la Palestine de la carte, c'est le titre de l'Humanité demain matin. Piétinant le droit international, la Maison-Blanche juge légale les colonies israéliennes en Cisjordanie. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une excellente soirée sur Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure, 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.